Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Joseph, le 15 mai 90.
Pourquoi ce qu'il y a de commun au raisonnement et au jugement oblige-t-il de poser une cause unique? Intelligence unique et non pas deux. Ça, dans l'ordre de la philosophie du vivant, c'est le sémo vere qui nous oblige de poser une faculté particulière, une puissance particulière. On se meut dans l'ordre de la vie végétative. Pose là une faculté d'assimilation. On se meut dans l'ordre de la connaissance sensible. On se meut dans l'ordre d'une connaissance particulière qui est spirituelle, dans l'ordre de la pensée. Donc c'est du côté du sémo vere qu'il faut bien comprendre le quelque chose de commun. Puisque l'unité de faculté ne peut se comprendre que du côté toujours vital. Et la différence avec le point de vue critique, où on cherche beaucoup plus le point de vue de la signification de l'objet. Cherche ce qu'il y a de commun dans l'ordre du sémo vere. Le sémo vere, dans ses diverses opérations de connaissance intellectuelle, qu'il s'agisse du jugement, qu'il s'agisse du raisonnement, qu'il s'agisse d'intuition, a ce caractère particulier universel, d'impliquer quelque chose d'universel. Je dis bien quelque chose d'universel. Si j'ai dit, je ne sais plus, parce que si j'ai parlé de signification universelle, c'est pas la signification. Le tikoinon ne regarde pas la signification, mais regarde la manière d'exercer l'opération de pensée. Il y a un mode universel. Parce que l'universel comme tel est une manière particulière d'opérer. Ça ne regarde pas l'objet. Ça modifie une manière d'exercer la vie. On exerce la vie selon un mode particulier dans toute la vie sensible, dans la connaissance sensible, dans la vie passionnelle, tandis qu'il y a pour manifester ce dépassement du monde sensible, du monde de la vie biologique, une modalité universelle.
Au sens absolu.
Il y a un objet qui a une signification qui peut être universelle. supposé. Et c'est là justement ce qu'il y a de tout à fait particulier à la vie de l'esprit. Vous devriez poser une puissance distincte pour la philosophie, les mathématiques, les sciences modernes. C'est toujours l'intelligence, cette faculté de connaissance, qui est au-delà de cette diversité. Et en critique, je poserai que cet au-delà se comprend parce que cette intelligence est déterminée par l'être, la ratio mentis. Primo caditi intellectus ens. C'est pas ce primo caditi intellectus ens qui me permet de poser une faculté unique. Ça, c'est la critique. La critique me montre qu'en définitive, toutes mes opérations intellectuelles se ramènent à cette saisie de l'intelligence, à cette saisie de l'être, la ratio mentis. Tandis que du côté de la vie, c'est la manière particulière dont j'opère le sémo verré. Toute la philosophie du vivant est commandée par le sémo verré. Et c'est là qu'on voit que dans la philosophie hegelienne, c'est mauvais, va commander toute la dialectique. Et ce n'est plus le point de vue de l'objet. La question de l'universel, c'est une manière d'être l'universel. C'est pas une question d'objet. C'est une manière d'être. On existe selon un mode, une opération existe selon un mode particulier, qui est au-delà du sensible. Et cet au-delà du sensible va permettre de donner sens à la signification. Donc le tikoinon, qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces opérations qu'on appelle intellectuelles, c'est justement de se mouvoir selon un mode spécial qui est universel. Je crois que c'est la seule manière pour nous de poser une faculté unique, intelligence. Si vous trouvez une autre manière, vous me le direz. Aristote ne fait pas l'induction. On doit la faire aujourd'hui. On doit le faire, on doit préciser. Aristote dit simplement les deux opérations. Il fera bien, mais précise pas plus. Alors, si on réfléchit sur ce que représente la philosophie du vivant et sur le caractère propre de la philosophie du vivant, on a posé les trois degrés de vie en fonction des trois modalités particulières d'opération vitale, plus ou moins dégagées de la matière. Or, seul l'universel est au-delà de la matière. C'est donc cette modalité particulière d'opérer qui m'oblige de poser le nous séparé de la matière. Et réfléchissez bien là-dessus. Et si vous voyez une autre manière de poser la dunamis, cette dunamis spirituelle qu'est l'intelligence, moi, je n'en vois pas d'autre. C'est possible que vous en voyez une autre. Parce que là, je suis obligé. Je creuse davantage ce qu'est la philosophie du vivant. En montrant bien ce degré particulier qui se fait par rapport à l'intelligence, pas par rapport à l'affectivité. L'affectivité n'implique pas l'universel. C'est ça qui est très curieux. Et cependant, il y aura une affectivité spirituelle qui sera notre volonté. Mais je ne pose pas la volonté du tout de la même façon que l'intelligence. Je pose l'intelligence en fonction des degrés de vie. Et les degrés de vie se prennent du côté de la libération particulière à l'égard de la matière. Ma vie végétative est en connexion pain et les vaches. Et je suis carnivore de temps en temps. Mais alors là, je manifeste que j'ai des dents. Et ainsi de suite, voyez, la vie sensible, c'est un dépassement par rapport à cet aspect immédiat du point de vue physique. Je saisis une forme sensible. Et en saisissant une forme sensible, je suis au-delà du point de vue purement sensible au niveau substantiel. Et je ne vis cette vie que d'une manière intentionnelle. Comme ma vie intellectuelle, c'est du côté de l'intentionnalité, mais qui a un mode universel. Alors la forme, c'est la forme de l'intentionnalité qui a un mode universel. C'est évident que l'universel a toujours une forme, est soutenu par une forme. Je ne regarde pas la signification. Je regarde quelque chose de plus radical. Je regarde cette forme intentionnelle qui a un mode universel. Toute ma vie intellectuelle a un mode, a une forme intentionnelle selon un mode universel. Plus ou moins explicite. Parce que vous allez me dire du jugement d'existence, mais oui, le jugement d'existence, il implique quelque chose d'universel. Le ceci. Ceci, le mode universel est présent. Creusez bien, vous verrez. Et c'est très intéressant par rapport à la philosophie hegelienne de bien saisir justement ce que d'habitude on n'explicite pas et que Hegel va expliciter dans la dialectique. Parce que la dialectique hegelienne n'est pas commandée par le point de vue de l'objet. La dialectique hegelienne est commandée par le sémovéré. C'est un sémovéré qui est au-delà des contraires et qui est au-delà, d'une certaine manière, d'un sujet distinct des contraires. Ce sont les contraires qui eux-mêmes engendrent le troisième. Vous voyez, il y a une sorte d'inversion qui est intéressante, qui reste à comprendre. Le devenir. Les deux contraires et le sujet qui existe, qui est physique. Lorsqu'il s'agit de se devenir intentionnel, spirituel, universel,
c'est
vie intellectuelle, et pas uniquement l'aspect passif par rapport à l'objet, où je suis déterminé par rapport à l'objet, où je suis passif. Dans ma vie intellectuelle, quant à l'objet, je ne me meux pas, je reçois. Je reçois une forme nouvelle, qu'on appelle l'objet. L'objet vient de l'extérieur. C'est ça le réalisme. Tandis que c'est mauvais, il vient de l'intérieur. Et d'une certaine manière, vous voyez, ce qui est posé en premier lieu, c'est cette faculté capable de se mouvoir. Et de se mouvoir à travers toute ma vie intellectuelle. C'est pour ça que dans l'hégélianisme, c'est l'intellect agent qui remplace l'intellect passif. Et c'est vrai, c'est l'intellect agent, je ne précise pas encore ici, ce sera en critique, que je préciserai exactement ce que c'est que l'intellect agent. C'est pas ici, c'est pas dans la philosophie du vivant. Dans la philosophie du vivant, je pose simplement que ma vie intellectuelle est plus active que toutes les autres vies. Je suis plus vivant quand je pense que quand je mens. D'accord là-dessus. Oui. C'est pour ça que quand on fait un cours avant le petit déjeuner ou avant l'autre déjeuner, dès que vous quittez la salle et que vous prenez votre bol de café, vous dégringolez d'un cran, même de deux. Parce que vous êtes beaucoup plus vivant quand vous pensez, quand vous essayez de faire des philosophies. De café. C'est pour ça qu'au concile, il disait que l'œcuménisme était au bar. Et c'est le vieil œcuménisme de la Bible, le puits. Quand on va puiser au puits, tout son bétail, les enfants d'Abraham, les enfants de Jacob et Jacob lui-même, ils sont tous. C'est l'œcuménisme du vivant. L'œcuménisme par le bas. Tandis que l'œcuménisme divin est par le haut. C'est la finalité. C'est ça la difficulté. Mais il faut bien comprendre que lorsque je pense, je me meux. Et je pose cette faculté vitale qui se meut. Et qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la matière. Quelque chose qui est au-delà de la matière, je le saisis à travers cette forme intentionnelle universelle. Voilà le petit signe qui montre bien qu'il y a une faculté, une, au-delà de la matière. Bon, ça c'est la première chose, très importante. Et c'est par le sémovere. Vous voyez bien la ligne par laquelle je le c'est le sémovere. Le sémovere de ma vie intellectuelle. Ensuite, je vais essayer de voir, étant donné l'ampleur de ma vie intellectuelle, ma vie intellectuelle a une extension quasi infinie. Et je comprends, du reste, si justement c'est le domaine de l'universel. Ça n'a pas de limite. Tout peut être vu sous point de vue universel. Et donc ça n'a pas de limite. Je peux tout saisir. Ça c'est important. Mais alors y a-t-il une structure? Ou est-ce que je me perds dans l'infini? Eh bien il y a une structure puisque c'est vital. La vie est toujours organique. Est toujours ordonné. Un organisme qui n'est pas l'organisme biologique, qui est un autre organisme. Alors, est-ce qu'il y a une structure dans ma vie intellectuelle? Je crois que c'est la seconde question qu'il faut se poser au point de vue philosophie du vivant. Alors, je vois tout de suite induction, déduction, démonstration a posteriori, toute une quantité de choses, une attitude réductive. Il y a des raisonnements. Et c'est les raisonnements qui prennent le plus de place. Raisonnement, une extension extraordinaire. Des raisonnements qui sont du reste nécessaires, des raisonnements qui sont dialectiques, qui relèvent de l'opinion, qui sont probables, qui n'ont aucune grande certitude. Et pour avoir des certitudes, ils sont obligés de faire appel au côté affectif. C'est très très nombreux les raisonnements, c'est très divers, mais c'est toujours des raisonnements. Il y a une structure de l'esprit qui apparaît comme le point de vue du raisonnement. Ça, on ne peut pas le nier, on l'a tous évidemment. Vous avez raisonné une fois dans votre vie. Et dès que vous discutez, vous raisonnez. Les discussions en récréation. On dit, c'est de la philosophie parce qu'on raisonne. Non. Tout homme bien fait raisonne. Quand il raisonne très bien, il est philosophe et il est dans la logique. Quand il philosophe mal, il fait des erreurs. Il passe d'un genre à l'autre, puis il raisonne. Alors, il y en a toujours un dans la discussion qui raisonne bien et dit « Oh non, vous n'exagérez pas, tu passes d'un genre à l'autre, c'est pas juste. Ton raisonnement ne vaut rien, il n'y a rien de tel pour vous mettre en colère. » Il y a les raisonnements. Et on voit que ces raisonnements sont très multiples. Et puis, il y a le discernement. Très souvent critique. Je discerne, je juge. Deux activités très différentes, deux structures très très différentes. C'est quand même très intéressant ça. Et ça, je l'ai tout de suite. Je m'aperçois tout de suite ces deux structures. Je me meus surtout dans les raisonnements. Dans les raisonnements, je me meus. Alors, c'est évident. J'ai une activité prodigieuse. C'est pour ça qu'on aime tellement de raisonner. Parce que dans le raisonnement, on se prouve à soi-même qu'on est intelligent. Et c'est quand même agréable de se prouver à soi-même qu'on est capable, à partir de n'importe quelle donnée, en trouver d'autres. Il y a une certaine fécondité dans le raisonnement. Fécondité à l'intérieur de ma vie intellectuelle. Je me meurs. Je suis assez autonome. Je découvre des choses nouvelles dans cet ordre d'extension. Il y a une croissance prodigieuse de ma vie intellectuelle dans les raisonnements. Et ceci, je le fais tout simplement par une sorte de méditation, de réflexion. Et plus cette réflexion est intense, plus je suis capable de me voir. Il y a un caractère très particulier de ce développement de ma vie intellectuelle qui sont les raisonnements. Je préciserai ensuite la diversité de ces raisonnements pour voir comment ma vie intellectuelle se développe. Et je conçois qu'il y a un développement de ma vie intellectuelle qui est comme ça et qui m'est très comme naturel. Très très comme naturel. Et puis il y a autre chose qui est un discernement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. Je porte là quelque chose de très particulier. Je suis capable, dans ma vie intellectuelle, de discerner le vrai et le faux. Et ça, c'est au-delà du raisonnement. C'est un autre ordre. Je discerne. Juger, c'est discerner. Et que toujours, quand je saisis la vérité, c'est toujours dans un jugement, c'est pas dans un raisonnement, en premier lieu. Les raisonnements seront vrais en fonction de mes jugements. Parce que si je prends un jugement juste et un jugement boiteux et que je les mets ensemble, le tout sera corrompu. Vous ne pouvez pas raisonner vrai avec une jambe droite et une jambe courbe. Impossible. Il faut que les deux soient vrais. Donc, là, je découvre un domaine très particulier, beaucoup plus qualitatif. C'est beaucoup plus proche de la vie de l'intelligence discernée. J'aurais même un certain mépris vis-à-vis de celui qui raisonne indéfiniment et qui ne sait jamais discerner. Je verrais la qualité d'une intelligence dans son discernement, pas dans ses raisonnements. Dans ses raisonnements, je dirais, on sait très bien. Il raisonne beaucoup. Il y a une fécondité prodigieuse dans ces raisonnements, mais on ne sait jamais si c'est juste ou c'est pas juste. T'as dit quoi ? Ça veut dire à celui-là, c'est merveilleux. Chaque fois qu'il résonne, c'est juste. Et je verrai que dans mes raisonnements, il peut y avoir toute une part imaginative. L'imagination déborde quelquefois et permet des raisonnements extraordinaires dans l'ordre des possibles. Et des impossibles. Tandis que discerner, pas d'imagination du tout. Là, vraiment, c'est là où je vois le dépassement de ma vie spirituelle par rapport à l'imagination. Je suis capable de poser quelque chose et de dire ceci est vrai. Ceci est faux. Mais je qualifie mon jugement de vrai. Je qualifie mon raisonnement. Raisonnement devrait être faux en fonction du jugement. Et donc, il y a un ordre entre les deux. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif et qui me fait comprendre ce qu'est vraiment ma vie spirituelle, ma vie intellectuelle. Et quelque chose qui en est un peu tout l'alentour, tout le milieu. Je raisonne constamment. Et en effet, je dois raisonner pour avancer. Mais je ne peux vraiment dire que c'est quelque chose de positif que quand je posais. Je crois que c'est les deux grandes structures de ma vie intellectuelle. Est-ce que ces deux structures n'obligent-elles pas de poser de facultés ? Je reviens au problème précédent. Je dis non, parce que justement, ces deux structures sont toujours emboîtées l'une dans l'autre. Tout raisonnement présuppose des jugements. Et tout jugement, pour croire, implique des raisonnements. Et il y a le quelque chose de commun, c'est que tous les deux sont au niveau universel. Des deux côtés, je me meus. Je crois que ça, on peut tous saisir ça, hein, les deux grandes structures. Mais c'est intéressant de voir que ces deux grandes structures ne sont plus respectées dans un mouvement dialectique. Pourquoi ? Parce que le sema vere l'emporte sur tout le reste. Et que le sema vere est manifeste plus profondément dans les raisonnements que dans le jugement. Alors, si le sema vere commande toute ma vie intellectuelle, donc il y a quelque chose d'autre qui commande ma vie intellectuelle et qui m'est donné dans le jugement. Vous voyez, je me pose la question. Je vois que tous mes raisonnements dépendent de mes jugements. Et que le jugement est donc quelque chose de plus radical et de plus fondamental. Mais d'autre part, je vois que le sema vere est plus explicite dans les raisonnements. Il faut donc découvrir le quelque chose de plus fondamental dans ma vie intellectuelle que le sema vere. Et qui caractérise d'une manière très particulière cette vie intellectuelle et qui m'est donnée dans le jugement. Là, vous voyez, je reste en philosophie du vivant. Alors, je me pose la question. c'est mauvais ray, on peut dire qu'on résonne plus rapidement ou moins rapidement. Mais qu'est-ce qui me permet de dire ceci est vrai, ceci est faux? Vous voyez, alors là, vraiment, je découvre ce qui caractérise ma vie intellectuelle. C'est que ma vie intellectuelle est capable de dire ceci est vrai, ceci est faux. Et je peux dire que ceci est vrai, ceci est faux, en tant que j'ai découvert dans ma vie intellectuelle quelque chose qui est premier. Vers quoi je me réfère? Oui, je creuse au point de vue de la vie. Je saisis quelque chose qui s'impose à moi. Et en référence à quoi je peux dire ceci est vrai, c'est-à-dire ceci est conforme à quelque chose qui est antérieur à ma vie intellectuelle. Mais cependant que je saisis dans ma vie intellectuelle, mais quelque chose qui s'impose à moi. Et ce quelque chose qui s'impose à moi, ce sera la réalité que j'atteins dans ma vie intellectuelle et qui est antérieure. Cette réalité que je saisis et vers laquelle je me réfère. Et ceci est saisi dans le jugement. Voilà ce que c'est que juger. Juger, c'est être capable de dépasser l'intentionnalité. Alors que dans le raisonnement, je demeure dans l'intentionnalité. Que je sais ici comme antérieur à l'intentionnalité. Et donc je vois que ma vie intellectuelle a ceci de très particulier, c'est qu'elle est au-delà du monde physique, du monde sensible, que d'une certaine manière elle est indépendante de ce monde. Et pourtant, je me réfère toujours à la réalité existante qui dépasse, sous un certain aspect, ma vie intellectuelle. Puisque je me réfère à elle pour dire ceci est vrai. Et comme c'est curieux, c'est là où je vois la complexité de ma vie intellectuelle. C'est qu'au fond, elle est au-delà du monde sensible, du monde physique, du monde biologique. Et cependant, elle se réfère à ce monde. Je vois donc apparaître à l'intérieur de ma vie intellectuelle deux aspects. Un aspect d'intentionnalité, de forme intentionnelle, qui est un mode universel. Il y a un au-delà de l'universel qui se réfère à la réalité existante, saisie par le jugement. Et je vois que si je refuse ce dépassement, je demeure uniquement dans le c'est mauvais ré de l'intentionnalité. Et donc j'ai une pensée dialectique. Le dépassement de la pensée dialectique, c'est reconnaître le jugement dans sa valeur propre, qui me permet de dire ceci est vrai. Et donc, de comprendre que la forme intentionnelle, qui a ce mode universel, curieuse réceptivité. Sa prodigieuse vitalité, c'est qu'elle peut s'étendre à tout. Il n'y a pas de limite dans la forme intentionnelle du sémovéré, puisqu'elle est universelle. La limite que je saisis de ma vie intellectuelle, c'est la réalité existante, antérieure à ma vie intellectuelle. Et j'assiste dans le jugement. La voyez comme si curieux. Si j'étais parti du jugement, je n'aurais pas pu saisir le c'est mauvais. Donc cette vitalité prodigieuse de l'intelligence qui peut s'étendre à tout. Je serais resté fixé sur ou le premier génétique ou le premier solaire de nature. Ce serait l'ontologisme des deux côtés. Alors que non, l'intelligence a en elle-même une vitalité propre. Propre qu'elle a dans la forme intentionnelle où elle se meut. Mais dans ce c'est mauvais ré, je saisis une limite. Je peux dire, je peux me critiquer moi-même. Je peux critiquer mon c'est mauvais ré. C'est extraordinaire. Je peux dire ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Je peux affirmer, je peux nier. Ceci n'est pas vrai. C'est mauvais.